Midi 30, 13h.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marlène.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. À la une, le recueillement à Strasbourg pour l'hommage aux victimes de l'attentat de mardi en plein cœur du marché de Noël. Vous l'entendrez, beaucoup d'émotions à Strasbourg ce matin. Il faut libérer les ronds-points, message du ministre de l'Intérieur aux Gilets jaunes, relayé ce matin sur Europe 1 par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Mais vous le verrez, les Gilets jaunes comme à Fréjus dans le Var n'ont pas du tout envie de lever le camp, malgré le recul de la mobilisation hier pour l'acte 5. Clap de fin pour la COP24 en Pologne, mais cette conférence a-t-elle répondu à l'urgence climatique? Nous poserons la question au spécialiste du climat Henri Weissmann, il est mon invité. Miss Tahiti remporte la couronne de Miss France et c'est l'euphorie en Polynésie, vous l'entendrez. Le journal des sports, les handballeuses françaises rêvent d'un titre européen, coup d'envoi à Bercy à 17h30 de leur finale face aux Russes pour l'Euro. Enfin, la météo est après-midi nettement plus calme après les pluies qui ont traversé la France hier, même si c'est dans la grisaille.
Europe 1.
Beaucoup d'émotions ce matin, je vous le disais, à Strasbourg. L'hommage des habitants aux victimes de l'attentat de mardi soir en plein cœur de la ville où se tient le marché de Noël. Hommage qui vient de s'achever, Charlotte Bechler.
Oui Fabienne, plus d'un millier de personnes se sont retrouvées ce matin au pied du grand sapin de la place Kléber, le symbole du marché de Noël strasbourgeois, des touristes, des locaux mais aussi des proches de victimes. L'hommage a duré une heure avec des prises de parole, des poèmes mais aussi des morceaux de musique. Imagine de John Lennon, Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel ou encore du gospel. Dans la foule, il y a Christophe. Après l'attentat de Paris et de Nice, il avait allumé une bougie sur cette même place. Aujourd'hui, il a ramené des fleurs.
4 grosses manches pour chaque personne qui nous ont malheureusement quittés sous les balles de feu. C'est fou, pas d'autre terme, je ne l'excuse pas, je n'arrive jamais à l'excuser, donc une rose par personne.
Marie est venue avec ses enfants, elle veut leur faire comprendre la réalité de ce monde, même à deux pas de chez soi.
Nous sommes venus en famille pour rendre hommage aux victimes, parce que ça aurait pu être nous, parce que c'est arrivé près de chez nous et c'est important de se souvenir.
Charlotte vit à Strasbourg depuis 25 ans, ce recueillement c'était une sorte de thérapie pour elle.
Moi j'avais besoin de ce moment ce matin pour être ensemble, pour sentir une communion. C'est hyper important, j'ai fait une petite pancarte où j'ai écrit Strasbourg plus fort que la haine. Et c'est très important de ne pas laisser la haine occuper le terrain, de dire que l'amour est plus fort et qu'on est ensemble.
Un moment de partage symbolisé aussi par une minute de bruit. La cérémonie s'est terminée sous des applaudissements et des cris pour faire fuir la barbarie.
Et Charlotte Bechler à Strasbourg pour Europe 1. Notez par ailleurs qu'il ne reste plus qu'une personne en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat de Strasbourg. Hier, les parents et les deux frères et deux des frères de Chérif Chekat ont été remis en liberté. Aujourd'hui, ce sont deux suspects, un couple soupçonné d'avoir hébergé le tueur pendant sa cavale, qui a été libéré en l'absence d'éléments incriminants à ce stade. C'est ce que précise ce matin le parquet de Paris. Le dernier suspect interrogé par la police judiciaire aurait quant à lui, pu fournir une aide logistique aux terroristes avant son passage à l'acte. L'acte 5 du mouvement des Gilets jaunes avec une mobilisation en net recul hier, deux fois moins de manifestants à travers toute la France et surtout des rassemblements qui ont été marqués par nettement moins d'incidents. Pour autant, certains Gilets jaunes restent toujours déterminés, particulièrement ceux qui sont installés sur les ronds-points depuis un mois maintenant. Et ce matin sur Europe 1, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, leur a dit qu'il fallait lever le camp.
La crise des Gilets jaunes a créé des nouvelles sociabilités. J'en ai vu certains, je suis allé à la rencontre de quelques-uns en France et on voyait bien qu'il y avait tout simplement ce bonheur d'être ensemble. Là aussi, c'est ce qu'on doit garder de positif. Donc essayons de réinventer dans les temps futurs autre chose que les ronds-points pour se retrouver entre Français, sur toutes les parties du territoire, pour se parler calmement, puisque nous avons forcément des différences les uns avec les autres, et réussir à faire avancer le pays de cette façon-là. Il est évident que ce n'est pas l'occupation pendant des mois et des mois des ronds-points qui va apporter en soi une solution.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Même message hier soir sur Twitter, donc du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Les ronds-points doivent être libérés. La sécurité de tous doit redevenir la règle. Jacques Terrence, vous êtes allé sur un rond-point à Fréjus, dans le Var, et ce message des autorités passe visiblement très mal auprès des Gilets jaunes.
Ah oui, je vous confirme, Fabienne, ici Christophe Castaner, c'est le nom à ne pas prononcer devant les manifestants qui occupent ce rond-point depuis près d'un mois. Cet appel du ministre les met très en colère, d'autant qu'ils ont déjà été expulsés il y a 3 jours, mais tout a été reconstruit depuis au beau milieu du rond-point.
Il nous virera du rond-point, on ira en face. Et quand il nous virera de là-bas, on ira de l'autre côté. Et même sur le toit de la maison, ben on partira pas, monsieur. On est dans la rue, on va y rester.
On demande à nous d'assumer ces 8 morts. C'est des gens qui sont morts pour la lutte, pour leur liberté, pour leurs droits. Moi, j'accuse le gouvernement pour ces 8 morts. Je dis qu'ils méritent d'être jugés. Après 8 morts, ils attendent quoi? Qu'on meure tous ici? Alors qu'on défend quoi? Nos droits? C'est pas à eux de bouger, ils nous demandent à nous de bouger des ronds-points, mais eux bougent pas de leur palais. On reste là, on restera là, quoi qu'il arrive.
Voilà, vous l'entendez, beaucoup de colère, entretenue par un lien social très fort entre ces gilets jaunes, une 30aine en moyenne ici, désormais très attachés aussi à cette nouvelle maison montée de leurs propres mains.
Ah oui, il y a tout. Là, il y a le coin cuisine. Là, on a le coin garde-manger, c'est ce que toute la population nous apporte. Là, on est en train de faire des étagères pour ranger. On a des tables, le café, voilà, on a tout ce qu'il faut. Il est hors de question qu'on laisse nos ronds-points.
Ou alors, disent-ils, seulement si Emmanuel Macron démissionne ou qu'un référendum d'initiative citoyenne est mis en place.
Jacques Terrance à Fréjus pour Europe 1. Alors, la journée d'hier aurait dû marquer le coup d'envoi de la concertation territoriale autour des revendications des Gilets jaunes. Pour l'instant, l'organisation de ce débat public n'est pas finalisée, mais certains maires ont déjà pris les devants en ouvrant des cahiers de doléances. C'est le cas à Méricourt dans les Yvelines où s'est rendue pour Europe 1 Yasmina Katou.
À l'oral, par courrier ou à l'écrit, au total une 100aine de messages ont été regroupés dans le cahier de doléances mis à disposition par Philippe Gasselin, maire de Méricourt.
Je touche 945 euros par mois, c'est de plus en plus difficile de vivre dignement.
L'édile a ouvert sa porte aux 400 habitants de sa commune dans les Yvelines et est allé à la rencontre de Gilets jaunes. Et à chaque fois, un thème prédomine.
Le pouvoir d'achat, les retraites, les gens qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur salaire.
Vous avez appris de ces échanges ?
J'ai appris que en fait, la misère était encore plus ancré que je ne l'imaginais. Pourtant, je suis près de mes habitants. Et à un moment donné, je pense que quand la coupe est pleine, il faut que ça pète.
Un ras-le-bol entendu et compris par le député MoDem Bruno Millienne qui s'est proposé d'être le porte-voix et de regrouper toutes ces réclamations.
Les gens, ils sont dans l'urgence là. Donc dans l'urgence, il faut qu'on remette de l'activité impérativement sur les territoires. Et les maires ruraux peuvent nous aider. Sur la région a des solutions à leur apporter. Il faut vraiment qu'on se remette autour de la table et qu'on monte des projets qui soient visibles tout de suite.
Des tables rondes sont prévues rapidement après compilation des doléances par les élus. Doléances qui seront ensuite transmises au service de l'État via les préfets.
Yasmina Katou dans les Yvelines pour Europe 1. À suivre, Miss France 2019, Vaï Malama Chavez. Et elle est tahitienne.
12h39, la suite du journal, Fabienne Lemoyle.
Et il va falloir retenir son nom, elle s'appelle Vaï Malama Chavez, elle a 24 ans et depuis hier soir, cette Haïtienne n'a pas beaucoup dormi car elle est devenue Miss France 2019 et c'était l'euphorie cette nuit en Polynésie, Marion Jort.
Oui, des cris de joie. À Tahiti, l'élection a été diffusée en direct sur des écrans géants dans les bars et les restaurants. Écoutez quand le verdict est tombé. Et pour cause, Tahiti n'avait pas remporté la couronne depuis Maeva Galanter en 1999. Pire même, on dit les candidates tahitiennes maudites, souvent dans le top 5, dauphines, mais jamais élues. Vaï Malama a donc rompu la malédiction. Je l'ai eue au téléphone ce matin, elle a dormi 3 heures, mais elle est très fière.
J'ai hâte de voir la réaction des Polynésiens. Ça fait 20 ans qu'ils attendent cette couronne, aujourd'hui c'est moi qui la ramène. Je suis trop heureuse. Je suis la princesse des nuages actuellement.
Alors la nouvelle Miss a 24 ans, elle a fait des études de management. Plus jeune, elle a souffert de harcèlement à cause notamment de son léger surpoids, 80 kg pour 1m78. Aujourd'hui, elle en pèse 20 de moins et cette élection, c'est une revanche.
Je souhaite que les gens s'acceptent tels qu'ils sont, qu'ils aient confiance en eux et qu'ils puissent s'épanouir. Et s'ils veulent devenir quelqu'un d'autre, qu'ils se battent vraiment pour qui ils veulent être.
Et Fabienne, son planning est déjà très chargé. Elle est rentrée à Paris dans la nuit et elle enchaîne toute la journée avec ses premières interviews et ses séances photos.
Merci beaucoup Marion Jort. Et une élection très suivie avec plus de 7 millions de téléspectateurs hier soir sur TF1.
Le journal des sports.
Simon Rubin, on espère qu'on aura la même euphorie à Bercy ce soir pour les handballeuses françaises. Finale, très attendue.
Absolument, finale de cet Euro très attendu, 17h30 face à la Russie, hein, les Bleus championnes du monde en titre, les Bleus qui avaient perdu déjà un match pendant cet Euro et c'était lors de l'ouverture contre les Russes. Il y a un peu de revanche dans l'air, les Françaises, hein, qui avaient promis d'arriver jusqu'en finale, maintenant elles y sont et évidemment elles veulent plus, elles veulent soulever le trophée. L'arrière Camille Aiglon.
C'est pas encore assez. On le vit vraiment pas comme une récompense, même si on réalise la chance qu'on a là et la chance qu'on s'est aussi créée. Hein. Quand on est favorite d'une compétition, enfin une des favorites, mais en étant championne du monde en titre et en jouant à la maison, forcément, on avait ce statut-là. C'est hyper compliqué d'arriver là où on est arrivé déjà. Donc je pense qu'on peut être très fier de ce parcours. Par contre, effectivement, on n'a pas envie de repartir demain avec une médaille d'argent. Donc on est encore en mode travail jusqu'à demain.
Camille Aiglon au micro de Christophe Lamarre.
Le football avec pas mal de rencontres annulées à cause de la mobilisation des Gilets jaunes et la suite de la 18e journée en Ligue 1.
Oui, avec hier une seule rencontre qui avait lieu, c'était Reims face à Strasbourg. Reims qui l'a emporté 2-1, les Rémois qui se replacent à la 11e place. Et puis aujourd'hui, trois rencontres avec d'abord Nîmes-Lille à 15h. Les Lillois, deuxième au classement, qui sont à la relance après le nul concédé contre Reims la semaine passée. 17h, Nice 7e dans un match essentiel contre Saint-Etienne 6e. Et puis l'affiche 21h, Lyon, récent qualifié pour les 8e de finale de Coupe d'Europe en Ligue des Champions, reçoit Monaco, 19e, toujours à la dérive. À la faveur d'une victoire, les Monégasques sortiraient toutefois de la zone de relégation.
Le rugby, week-end de Coupe d'Europe qui se termine aujourd'hui.
Hier, Toulouse a continué son impressionnante marche en avant, battant les Wasps 42-27. 4 victoires en 4 matchs pour les Toulousains. Castres a renversé le Munster 13-12 et revient en 2e place de sa poule. En revanche, Lyon n'y arrive toujours pas. Aujourd'hui, le Racing, premier de son groupe, se déplace à Leicester, c'est à 14h. Et puis, le choc franco-français dans la poule 5 entre Montpellier et Toulon. Montpellier qui reste sur 5 défaites en 6 matchs. Toulon qui tente de se relever après un début de saison catastrophique. Autant dire que le vaincu perdra quasiment toute chance de qualification pour le tour suivant.
Et Simon referme ce journal des sports avec un mot de sport auto.
Oui, c'est le début de la 5e saison de Formule électrique, la Formule 1 électrique, avec un premier Grand Prix en Arabie Saoudite ce week-end. Mais en cette fin d'année, Axel May, on a surtout profité pour rencontrer le patron de la Fédération française de sport automobile, Nicolas Deschaux, qui dresse le bilan d'une année 2018 réussie pour la France. Il y a eu le retour d'un Grand Prix de F1 sur le sol national, les bons résultats en rallye et prometteurs en F1. C'est de bon augure.
La FFSA aujourd'hui peut s'enorgueillir d'avoir 15 titres de champion du monde des rallyes de rang, d'avoir des pilotes français sur la grille F1, de s'illustrer à la fois en endurance, mais aussi avec notre jeune Victor qui vient de gagner le championnat du monde de karting. Donc je crois que c'est un bilan, en tout cas sur le plan sportif, qui peut être souligné sur la scène internationale.
Nicolas Deschaux, patron de la Fédération française de sport automobile.
Merci Simon Rubin. Et on rappelle bien sûr à suivre en fil rouge la finale de handball à partir de 17h30 avec Christophe Lamarre sur Europe 1. La météo, c'est avec Valérie Darmon. Retour au calme cet après-midi, Valérie, mais dans la grisaille.
Tout à fait Fabienne, la perturbation d'hier a bien arrosé une grande partie de la France. Elle continue de le faire ce dimanche après-midi d'ailleurs dans le sud. Elle a aussi apporté un réveil blanc ce matin en plaine dans le Grand Est avec 1 à 5 cm de neige à Strasbourg et à Metz, à Charleville 2 cm, à Nancy et à Colmar 1 cm. La moitié sud reste donc cet après-midi sous les nuages et les averses jusqu'à ce soir comme prévu. Le nord sous les nuages et il en est presque fini même des éclaircies de ce matin dans le nord-ouest. Les températures, en revanche, persistent dans leur hausse, repassant légèrement au-dessus des moyennes de saison, 1 à 2 degrés au-dessus, avec des valeurs cet après-midi entre 7 à Belfort et 16 degrés à Biarritz. Demain, ça restera calme et plus ensoleillé, surtout au sud, sur toute la façade ouest également, où vous retrouverez de très belles éclaircies et très beau temps, très beau ciel bleu en Méditerranée.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre la COP24 sur le climat qui s'est achevée hier soir en Pologne. Les États se sont mis d'accord sur les règles pour appliquer l'accord de Paris, mais est-ce vraiment ambitieux pour lutter contre le réchauffement climatique? On pose la question à mon invité, le spécialiste du climat, Henri Weissmein, dans un instant.
12h48, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous, Fabienne Lemoyle, et votre invité.
C'est donc tard hier soir que le rideau est retombé sur la COP24, clap de fin pour la conférence sur le climat avec plus de 20 24 heures de retard. Les États se sont mis d'accord sur les règles qui vont permettre d'appliquer l'accord de Paris. C'était l'objectif majeur de ces discussions en Pologne. Mais quand on entend le cri d'alarme des climatologues, est-ce vraiment assez ambitieux? Les engagements de l'accord de Paris ne sont-ils pas déjà dépassés? Comment convaincre les pays de faire plus alors que l'ambiance est plutôt climato-sceptique? Comment convaincre les citoyens quand on voit la crise des gilets jaunes et notre dépendance à la voiture? Avec nous en studio, le spécialiste du climat Henri Wessmann. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Est-ce que les résultats de cette COP24 sont vraiment à la hauteur de l'urgence climatique?
Quand on regarde les résultats de la COP24, il faut voir le verre à moitié plein et aussi le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est, comme vous l'avez dit, le fait qu'on a réussi à se mettre d'accord sur les règles d'application de l'accord de Paris. Grosso modo, l'accord de Paris en 2015 avait défini les grands principes sur lesquels on allait travailler pour l'ambition climatique. Maintenant, il s'agissait de traduire ça dans les détails des règles d'application. Et le fait qu'on soit arrivé à un accord qui, suivant toutes les procédures onusiennes, est obtenu par consensus, donc tous les pays.
Donc c'est normal que ça ait pris du temps.
C'est normal que ça ait pris du temps, c'est normal que ce soit difficile. C'est un grand succès du multilatéralisme. Ça montre quand même que...
Qu'on se soit parlé,
qu'on ait réussi à se mettre d'accord. Ça montre que l'accord de Paris tel qu'il avait été construit est résilient, est capable de faire face à une situation géopolitique qui est effectivement difficile.
Mais est-ce que cet accord de Paris n'est pas déjà totalement dépassé quand on entend les cris d'alarme de vos collègues climatologues?
Ça, c'est le verre à moitié vide. Effectivement, la question de l'ambition, qui est quelque chose de très important. Dans quelle mesure est-ce que les objectifs qui sont mis sur la table par les différents États sont suffisants? La réponse est univoque et le dernier rapport du GIEC est extrêmement clair sur ce sujet.
Il dit quoi?
Il dit tout simplement que si on n'augmente pas très significativement l'ambition, c'est-à-dire si on ne décroît pas beaucoup plus les émissions par rapport à ce qui est aujourd'hui envisagé par les différents États.
Et particulièrement les émissions des gaz à effet de serre.
Les émissions de gaz à effet de serre qui sont très concrètement associées à notamment l'utilisation de l'énergie. Toutes nos utilisations liées au pétrole, au gaz, au charbon créent ces émissions-là. Et si on n'est pas capable de décroître très fortement ces émissions et de façon beaucoup plus ambitieuse que ce qui avait été envisagé au moment de l'accord de Paris.
Donc de la COP21.
De la COP21 en 2015. Eh bien, on n'atteindra pas les objectifs qui avaient été définis à cette occasion-là, c'est-à-dire de maintenir le réchauffement global bien en deçà de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle.
Donc on comprend l'urgence parce qu'à la fois on a trouvé le mode d'emploi pour appliquer l'accord de Paris, mais vous nous le dites bien, l'accord de Paris n'est pas assez ambitieux finalement si on veut lutter contre le réchauffement climatique. Et comment on fait avancer les choses quand on voit le climat climato-sceptique? Je pense à Donald Trump, je pense au Brésilien Bolsonaro qui d'ailleurs a dit « je n'organiserai pas la COP25 au Brésil l'année prochaine ». Comment on fait? Ils freinent des cas de fer. Pareil pour les pays pétroliers, le Koweït, l'Arabie Saoudite.
La façon dont le processus est organisé, c'est que maintenant, dans cette phase, donc, le fait de s'être mis d'accord sur les règles, c'est une condition nécessaire. Donc ça, c'est fait. Maintenant, quelles sont les conditions qui doivent être remplies en plus de ça? Et on a une période devant nous, 2019-2020.
Mais on a le temps.
C'est le moment, maintenant. C'est maintenant ou jamais. Et c'est maintenant que finalement, les décideurs vont devoir faire face aux responsabilités qui sont les leurs, qui sont d'augmenter l'ambition. On a le secrétaire général de l'ONU qui a été extrêmement actif pendant cette semaine, qui est venu plusieurs fois à Katowice
tirer
la sonnette d'alarme. Il va organiser une réunion en septembre à New York, septembre prochain, en 2019, pour inviter les États et faire une première étape. L'enjeu, c'est d'utiliser ces 2 années, 2019-2020, pour que chaque État fasse le travail à domicile.
Quel est le point le plus important sur lequel il faut agir très vite maintenant?
Quand on parle des transformations qu'on doit mettre en place, en fait, on parle de transformer de façon fondamentale l'ensemble de nos systèmes, et notamment les secteurs qui sont les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre.
Donc vous le disiez, la mobilité, c'est la voiture. On voit la crise des gilets jaunes, c'est bien difficile justement de mettre en place cette transition écologique pour y associer le citoyen.
Effectivement, la problématique des réductions des émissions, c'est un certain nombre de secteurs, notamment la mobilité et en particulier la mobilité du quotidien et les bâtiments. Deux secteurs qui sont essentiels pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui sont effectivement, de façon intéressante, aussi ceux qui sont au cœur du type de problématique sociale, en particulier tel qu'il se passe en France. Et du coup, la question fondamentale qui va se poser est... D'une certaine façon, ce qui se passe en France est aussi quelque chose qui devrait se passer un peu partout à l'échelle mondiale. C'est dans quelle mesure on est capable de reconstruire une stratégie qui réconcilie les deux objectifs. Parce que quand on regarde en détail et le rapport...
Quand vous dites réconcilier le citoyen avec cette obligation, effectivement, de changer nos habitudes, nos comportements, si on veut sauver notre planète, pour être tout à fait concret.
Prendre des politiques climatiques ambitieuses, c'est une condition indispensable de justice sociale. Et c'est le contraire d'un effet négatif. On peut très bien construire des politiques qui alignent les deux. Pour prendre des exemples très concrets, la rénovation du bâtiment, c'est quelque chose d'extrêmement concret qui... d'une part, permet de réduire la consommation des bâtiments et donc, associé à ça, réduire la facture. Donc, on réconcilie la réduction de la consommation d'énergie, des besoins énergétiques, et la réduction de la facture. La question de la mobilité, comment est-ce qu'on repense les moyens de mobilité ? Évidemment que dans certaines zones, on va pouvoir encourager la substitution de la voiture par des transports en commun. Mais on sait très bien aussi que ce n'est pas la panacée et qu'il y a un ensemble de zones, notamment les zones les moins denses, dans lesquelles les transports en commun vont avoir potentiellement plus de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts pour les développer là où ils peuvent, mais où d'autres modes de solutions doivent être mis en place. Par exemple, comment est-ce qu'on encourage le covoiturage ? Comment est-ce qu'on fait pour...
Mais ça, on en a déjà beaucoup parlé, Henri Weissmann. Je comprends votre combat, entre guillemets. Mais vraiment, comment faire passer ce message qu'il y a quelque chose d'essentiel à agir maintenant ?
C'est justement au travers du dialogue. Et c'est là qu'on doit justement organiser, prendre l'opportunité qui est posée par l'urgence climatique. Parce que l'urgence climatique, c'est une responsabilité qu'on a aussi par rapport à nous-mêmes, parce que les effets du changement climatique, on les voit aujourd'hui, et par rapport aux générations futures, et de le prendre non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité aussi de se poser les bonnes questions, et de se poser les bonnes questions, pas seulement pour le climat, mais aussi pour le futur et la transition sociale qu'on désire.
Merci beaucoup Henri Weissmann. Je rappelle que vous êtes spécialiste du climat, chercheur à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et quand je vous écoute, je me dis qu'on parlait des cahiers de doléances, effectivement, et de la concertation territoriale qui s'organise avec la revendication des Gilets jaunes et qu'il faudra sûrement que cette question cruciale soit au cœur justement de ces discussions. Merci beaucoup.
Merci.
12h59, on vous retrouve Fabienne Lemoyle pour l'essentiel de l'info.
L'hommage des habitants de Strasbourg ce matin aux victimes de l'attentat mardi. Près d'un millier de personnes rassemblées au pied du gigantesque sapin de la place Kléber, emblématique du marché de Noël, et beaucoup d'émotions. Dans l'enquête sur l'attentat de Strasbourg, il ne reste plus qu'une personne en garde à vue. Hier, les parents et deux des frères de Chérif Chekat ont été remis en liberté. Il faut libérer les ronds-points, un message aux Gilets jaunes hier soir du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur Twitter, relayé ce matin sur Europe 1 par Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation a vu sur les ronds-points ce bonheur d'être ensemble pour les Gilets jaunes, mais il est temps pour lui de trouver d'autres moyens de se parler. Et puis les sports avec la finale de l'Euro de hand pour les handballeuses françaises face aux Russes, coup d'envoi à 17h30 à suivre en fil rouge sur Europe 1 avec Christophe Lamar.
C'était Fabienne Lemoyle, prochain rendez-vous avec l'info dans une heure.